5e forum entreprendre dans la culture en Pays de la Loire, en direct du Palais des Congrès et de la Culture du Mans, avec la DRAC Pays de la Loire, le pôle de coopération pour la filière musicale en Pays de la Loire et les radios associatives sartoises de la Frama.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les radios associatives sartoises de la Frama, la fédération des radios associatives de Maine-en-Joux. Nous sommes en direct du Palais des Congrès et de la Culture du Mans pour la 5e édition du forum Entreprendre dans la Culture, organisé par la DRAC des Pays de la Loire et avec le soutien de Le Mans Métropole en collaboration avec le pôle coopératif pour la filière musicale. Alors qu'est-ce que le forum Entreprendre dans la Culture ? Eh bien c'est un rendez-vous pour tous les acteurs de la culture en Pays de la Loire, un espace de rencontre entre les membres de ces écosystèmes complexes, de la création et de l'innovation à la diffusion. Et c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons ensemble pour une table ronde qui s'intéressera à la spatialisation du son, une innovation dans la recherche scientifique aux politiques publiques, vers une nouvelle diffusion technologique de concerts. Alors durant une heure donc, il va s'agir d'échanger autour de la thématique de la spatialisation du son. Alors l'intitulé du sujet peut impressionner, mais vous allez découvrir que ça a des applications très concrètes dans la recherche scientifique, dans la régie technique pour des salles de spectacle par exemple, mais aussi pour un plan de développement de la ville du Mans qui projette de devenir capitale du son. On vous détaille tout ça avec nos invités. Et à mes côtés, d'abord, pour accueillir nos intervenants, Delphine Duchemin, animatrice sur Cartable FM. Bonjour Delphine.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Charlie, journaliste pour Radio Alpa.
Alors, il est temps à présent de présenter nos invités. Donc, nous avons d'abord Fabienne Lagarde, enseignante-chercheuse à Le Mans Université et vice-présidente pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation à Le Mans Métropole.
Bonjour.
Bonjour. Manuel Melon, chercheur au laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, le LOUM, spécialisé dans l'électroacoustique ou encore dans la génération de zones d'écoute personnalisées. Bonjour Manuel Melon.
Bonjour.
Et François Hérault, technicien pour la ville du Mans, certifié pour la technologie LISA. Alors on y reviendra, c'est la technologie qu'utilise notamment le dôme utilisé lors de la dernière Biennale du son en 2024. Bonjour François Hérault.
Bonjour.
Et enfin, Julien Martineau, directeur de la scène de musique actuelle Superformat. Bonjour également.
Bonjour.
Donc merci à tous d'être avec nous en plateau. Eh bien, je crois qu'il n'y a plus qu'à commencer.
Cinquième forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire, en direct sur les radios associatives sartoises de la Frama.
Alors peut-être avant de parler de la spatialisation sonore dans la politique de la ville et de ses applications pour des événements culturels notamment, il faudrait se demander tout simplement qu'est-ce que c'est la spatialisation du son. Alors Manuel Melon, vous êtes donc professeur au LOUM, le laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, et vous travaillez notamment sur des questions de spatialisation sonore. Alors quel est l'objet de vos recherches en fait ?
Alors nous, au laboratoire, on cherche à créer et reproduire des champs sonores qui peuvent être artificiels. Là, donc on va essayer de bâtir des champs sonores particuliers, donc soit pour la mesure, par exemple la mesure de matériaux, mais aussi pour le son, pour des technologies qui sont après utilisées dans des concerts ou dans l'écoute de la musique, aussi bien chez soi, dans son salon, qu'au casque. Voilà.
Oui, parce que qu'est-ce qu'on entend en fait concrètement par spatialisation du son et même, pour comprendre, est-ce qu'il faudra rappeler tout d'abord ce que c'est que le son en fait ?
Alors, pour en percevoir un son spatialisé, donc si on prend une analogie avec la vue, voilà, on est capable avec nos deux yeux de voir en relief. Et donc, pour le son, ça va être pareil. On a deux oreilles qui vont permettre à notre cerveau, en comparant les signaux qui arrivent aux deux oreilles, de connaître la position d'un son. Voilà. Est-ce que le son est plutôt à droite, à gauche, devant soi, derrière soi? Et donc, voilà, c'est notre cerveau qui fait ça dans la vie de tous les jours. Et donc, si on rediffuse, par exemple, sur des enceintes à la maison, sur un seul haut-parleur, donc votre cerveau va localiser la source à la position de ce haut-parleur et vous n'aurez pas une scène sonore en trois dimensions. Donc, dès qu'on va pouvoir ajouter un deuxième haut-parleur, par exemple, on va pouvoir faire de la stéréo. Et avec la stéréo, on va pouvoir balader la source entre ces deux haut-parleurs. Et derrière, si on rajoute de plus en plus de haut-parleurs, on va pouvoir diffuser un son et le cerveau le percevra comme pouvant venir de différentes directions.
Donc on est déjà au contact aujourd'hui avec des techniques de spatialisation du son.
Oui, voilà, ça existe. Enfin, les jeunes s'en servent couramment, notamment ceux qui jouent aux jeux vidéo, puisqu'il y a déjà des options dans les jeux vidéo de spatialiser le son, notamment sur les jeux de first person shooter où on essaye de deviner au bruit où est la position d'un ennemi. Donc c'est déjà utilisé dans la vie de tous les jours, donc dans le jeu vidéo par exemple.
Et alors du coup, dans le cadre de vos recherches qui cherchent à innover sur ces questions de spatialisation sonore, à quelles hypothèses est-ce que vous vous confrontez?
Alors on essayer de retrouver, de spatialiser un son correctement, ça demande beaucoup de matériel, beaucoup d'enceintes. Donc on va essayer de simplifier ça, donc d'essayer d'utiliser par exemple des artifices pour que le cerveau soit un peu trompé, voilà. Donc essayer de simplifier les systèmes pour que, avec un nombre limité d'enceintes, on puisse arriver à spatialiser correctement un son sans utiliser une grosse artillerie de beaucoup de haut-parleurs. Vous avez certainement entendu parler de la Sphère qui est à Las Vegas, qui utilise 170 000 haut-parleurs là, sur une salle de spectacle de plus de 1000 personnes. Donc là, c'est un peu la grosse artillerie, mais on est capable aujourd'hui de donner l'impression au cerveau qu'un son est spatialisé sans devoir recourir à un nombre de haut-parleurs aussi grand. Voilà. Donc derrière, on va essayer de simplifier un peu la physique, mais en gardant derrière un réalisme.
Et alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des expérimentations que vous menez?
Alors nous, au laboratoire, donc on a des applications dans différents domaines de la spatialisation du son. Donc je vais parler d'applications sur la mesure. Donc on essaye de faire arriver de créer des champs sonores qui arrivent avec certaines propriétés physiques. Voilà, par exemple, qui vont pouvoir faire des sons qui seraient créés par un flux d'air turbulent, par exemple. Là, c'est des applications pour ce qui peut arriver dans des moteurs d'aviation, voilà, où on a des turbulences qui vont créer un son, et donc on essaie d'absorber ce son. Et donc, on va essayer de recréer ces turbulences avec des haut-parleurs. Donc là, c'est vraiment l'application mesure physique. Mais on travaille aussi avec Stellantis, par exemple, sur les zones d'écoute personnalisées. Donc là, c'est une autre forme de son 3D. Donc on essaye de reproduire des contenus sonores différents dans différentes zones de l'espace. Donc pour l'automobile, le conducteur pourrait écouter un signal sonore différent, par exemple, des autres passagers, mais sans écouter de casque, sans utiliser, pardon, de casque. C'est-à-dire que les gens peuvent continuer à avoir de l'interaction, discuter entre eux, voilà, et écouter chacun un programme sonore différent.
Sur un espace aussi restreint qu'une voiture, ce serait possible de créer des environnements sonores individuels?
Alors, on y travaille, hein, c'est pas encore finalisé. Donc, il y a des zones de fréquence où ça marche plutôt bien. Effectivement, c'est assez compliqué puisqu'il y a des surfaces réfléchissantes qui sont très proches, comme le pare-brise ou les vitrages des voitures, qui compliquent la tâche. Donc voilà, les gens sont assez proches dans la voiture, mais il y a aussi des intérêts puisqu'on connaît aussi les positions. Donc, on sait où sont les gens. Voilà. Donc, l'intérêt de la voiture aussi, c'est qu'il y a une partie qui est complexifiée par ce petit volume, mais une autre partie qui est simplifiée par le fait que l'on sache où sont les gens.
Et alors, c'est ça qu'on appelle du coup des bulles sonores?
Oui, c'est ça, c'est des bulles sonores, voilà.
Et alors, j'imagine que c'est des expérimentations qui demandent des calculs assez complexes. Est-ce que vous utilisez ou envisagez l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre démarche?
Oui, là, on a commencé un stage cette année, voilà, pour essayer de voir si l'intelligence artificielle peut apporter d'autres façons de calculer ces bulles sonores, et puis peut-être aussi de mieux résister à des changements, parce qu'effectivement, quand on est dans une voiture, on est à peu près fixe, mais on peut bouger un peu la tête de quelques centimètres, et ça va changer la bulle sonore, la perception. Donc on essaie de voir si l'intelligence artificielle pourrait prédire ce type d'effet.
Et ça facilite vos recherches alors, d'une manière ou d'une autre?
Pour l'instant, on commence, donc je ne peux pas vous dire si... voilà. Mais on est vigilant à ce type d'approche pour essayer de voir si ça peut apporter des solutions.
Alors, quand on pense au LOUM, le laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, on pense bien sûr à la chambre semi-anéchoïque qu'il a été possible de visiter, notamment durant la dernière Biennale du son en 2024. Quel est l'intérêt de cette chambre, en fait? Est-ce qu'elle sert pour les questions de spatialisation?
Oui, elle va nous servir. Alors, même si à la fin, personne ne vit dans une chambre anéchoïque, on va avoir derrière des algorithmes qui vont arriver, qui vont essayer de prendre en compte l'effet de la salle. Mais sur les premières étapes de la recherche, ça nous fait un environnement qui est simplifié, où on n'a pas de mur, de sol ou de plafond qui vont réfléchir le son, qui vont compliquer la physique. Donc, on teste souvent nos premiers systèmes en conditions simplifiées. Ça nous permet de mettre au point les algorithmes. Puis après, on essaye de les améliorer pour qu'ils puissent prendre en compte les réflexions qu'on va avoir dans une salle, toute la réverbération de la salle.
Ça permet d'isoler certains facteurs, en fait, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Ça permet d'avoir un système qui va marcher plus facilement au départ. Et donc, quand on veut tester des idées, c'est plus simple.
Et alors, vous êtes nombreux à travailler sur ces questions au LOUM?
Alors, on a à peu près 170 personnes au LOM, mais on a beaucoup d'applications qui vont du son inaudible jusqu'aux les infrasons, donc très basse fréquence, jusqu'aux ultrasons. Mais dans l'équipe électroacoustique et audio, on doit être à peu près une dizaine de personnes qui travaillons sur toutes les applications audio du son.
Et alors, quels autres domaines de recherche est-ce que ça vient recouper? Est-ce que la recherche sur la spatialisation du son a des implications dans d'autres domaines?
Alors oui, tout à fait. Donc effectivement, Julien me parlera tout à l'heure de concerts, mais effectivement, il y a aussi des gens qui se servent du son spatialisé, par exemple, pour aider les malentendants, par exemple, les malvoyants, excusez-moi. Donc effectivement, ça peut être des systèmes au casque qui peuvent permettre de se déplacer dans la ville, par exemple. On a des systèmes qui existent avec des casques qui permettent de donner la direction en spatialisant le son. Voilà, il y a des applications dans la muséographie, donc on peut, avec certains casques, visiter des musées, puis avoir un son qui est spatialisé, donc, mais qui était capturé, qui est rejoué par des acteurs, mais qui vont être en situation et permettre de percevoir le son qu'on aurait en 3D dans tel ou tel espace.
Voilà. Alors effectivement, ma question n'était peut-être pas très claire. On reviendra effectivement sur les implications concrètes de cette recherche. Là, je m'interrogeais plus sur les répercussions sur d'autres domaines de la recherche, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres domaines de la recherche scientifique qui se recoupent à partir de la spatialisation sonore?
Oui, parce qu'on va spatialiser à l'aide de haut-parleurs, et les haut-parleurs ne sont jamais parfaits. Donc, par exemple, pour calculer, pour spatialiser le son, donc on va appliquer des filtres un peu spéciaux à ces haut-parleurs. Et si on écoute un son fort ou plutôt un niveau faible, les filtres ne sont malheureusement pas les mêmes, parce que les haut-parleurs ne sont pas linéaires, ils ont un comportement différent à bas niveau ou à fort niveau. Donc on essaye aussi de travailler sur comment améliorer les haut-parleurs, les linéariser, faire qu'ils aient toujours le même comportement, quel que soit le niveau sonore.
Et alors, est-ce que vous aviez été sollicité dans le cadre de la Biennale Le Mans Sonore en 2024, et de quelle manière?
Alors on avait été sollicité, on avait proposé un projet donc, qui avait été sélectionné. Donc on avait invité des artistes qui composaient en son 3D, et on avait installé un système dans la salle semi-anéchoïque d'Alma Acoustique. Et donc voilà, on avait organisé des concerts dans cette partie-là, et on avait aussi des démonstrations de bulles sonores qui étaient faisables lors de la visite du laboratoire qui était organisée durant la Biennale.
Alors cette Biennale du son illustre le développement de l'activité scientifique et culturelle autour du son au Mans. Un développement qui rentre dans un projet large qui vise à faire du Mans la capitale du son.
Cinquième forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire, en direct sur les radios associatives sartoises de la Frama.
Fabienne Lagarde, en tant que chercheuse et en tant que vice-présidente pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation à Le Mans Métropole, vous faites partie d'un consortium. Alors malheureusement, mes fiches, je n'arrive pas à récupérer ma fiche 4, j'arrive sur la 5 directement. Voilà, c'est plus simple comme ça, merci. Donc, vous faites partie d'un consortium qui coordonne les différents acteurs de la recherche et de la création sonore au Mans. Alors par exemple, le laboratoire d'acoustique du Mans, mais aussi l'ITEM, le SATALM pour son master de design sonore, ou encore Superforma. Et tout est parti d'un appel à projet de la Banque des Territoires. Alors expliquez-nous.
Alors, ça c'est pas tout à fait passé comme ça, je rectifie.
D'accord, elle a rectifié, je vous en prie.
En fait, c'est... Tout ce travail de coordination, il date déjà de 2019, je crois, à l'époque où a émergé l'idée de la première Biennale du son. Et l'idée, c'était déjà de faire une vitrine de tout cet écosystème qui existe depuis 40 ans, hein, pour certains acteurs, sur le territoire. Et quand l'appel à projet France 2030 est sorti, que nous en avons entendu parler, en le lisant, on s'est reconnu pleinement dans cette idée de faire des pôles structurants, très identifiés, et de spécialiser par territoire. Et on s'est dit, écoutez, dans la liste des attendus, il y avait l'image, mais il y avait le son. Et là, on s'est dit, ça ne peut pas être un autre territoire.
Donc en fait, le projet préexiste à l'appel à projet.
Voilà, le projet existait déjà, et c'est nous qui nous sommes vraiment complètement reconnus dans cet appel à projet.
Alors l'objectif, c'est de faire du Mans la capitale du son, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, c'est nous pensons, et je crois que les acteurs qui sont là ce matin le démontrent, avec ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on va entendre par la suite, nous avons toutes les briques, je dirais, pour faire vraiment un écosystème avec la totalité des savoir-faire qu'il faut sur le son. Donc le son, c'est à la fois l'acoustique, la science, on vient de le voir, ça peut être la musique, des instruments de musique. On a la chance d'avoir une école unique en Europe, l'ITEM, qui est l'institut où on apprend à fabriquer des instruments de musique, à les réparer. Donc c'est vraiment, ça rentre parfaitement en résonance avec tout ça. On a des lieux de création culturelle, de diffusion. On a voilà une SMAC qui s'est complètement aussi saisie de ce sujet-là parce que l'acoustique, pour le grand public, c'est le son, c'est la musique et ça fait vibrer tout un écosystème. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut, de la recherche, le transfert de connaissances vers les domaines socio-économiques, donc de la création de valeur avec des start-up, des entreprises, de la formation. On a vraiment tout un continuum de formation qui est, pareil, unique en France, puisqu'on peut former des gens sur tous ces métiers du son, de l'acoustique ou de la musique, du CAP jusqu'au doctorat. Et on a toute la diffusion, tous les acteurs qui peuvent permettre de diffuser autour du son.
Oui, je vous interpelle sur ce côté unique en France, justement. L'objectif, c'est de faire du Mans la capitale du son. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la concurrence ou le Mans a une place un peu hégémonique dans ce domaine ?
Alors justement, cet appel à projet, ça a été l'occasion un peu de voir comment se positionnaient tous les territoires, hein, puisqu'il y a eu plus de 115 projets déposés de façon nationale. Et il y a eu plusieurs projets qui pouvaient être vus comme concurrents parce qu'ils intégraient le son. Mais aucun n'était centré autour du son comme le nôtre. Les autres projets de territoire intégraient le son dans une vision plus large, par exemple l'audiovisuel ou le son, l'image. Mais on était vraiment les seuls à être spécifiquement centrés sur le son. Je crois que c'est ce qui a vraiment fait notre singularité et qui a fait qu'à la fin, on faisait partie des 25 lauréats.
Alors, vous avez cité plusieurs des acteurs de ce consortium. Et alors, de quelle manière se fait la coordination entre ces acteurs? Quelles actions sont menées concrètement?
Alors, on avait la chance donc de ne pas partir de zéro, loin de là, puisque la Biennale du son avait été déjà l'occasion de fédérer une quinzaine d'acteurs qui donc labos de recherche, centres de transfert, les acteurs de la diffusion culturelle, les lieux. Donc, on avait déjà tout cet écosystème qui se connaît bien, qui travaille ensemble. C'est quand même un comité de pilotage tous les mois et puis des ateliers qui depuis donc 2019. Donc, vous voyez, tous ces gens se connaissent bien. Et on est en train d'y agréger autour tout le monde socio-économique qui est relié de près ou de loin avec le son. Donc, pour nous, c'est du travail de coordination. C'est pas toujours facile. Voilà, c'est beaucoup d'ateliers, d'échanges. On construit une feuille de route commune. Il y a de temps en temps quelques, évidemment, hein, petites discussions un peu plus âpres ou un peu plus rudes. C'est notre rôle vraiment de puissance publique de faire en sorte que voilà, tout le monde trouve sa place et tout le monde aura un intérêt, trouvera son intérêt. C'est vraiment des intérêts convergents là qu'on est en train de mettre en avant dans ce projet.
Julien Martineau, vous représentez un des acteurs sonores au niveau local. De quelle manière, donc, en tant que directeur de Superforma, Superforma intervient dans ce projet?
Dans le cadre du projet, alors en fait, nous, on vient proposer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire, ce qu'on essaie de faire du mieux possible, c'est-à-dire proposer des rencontres entre artistes et public. Dans le cadre du consortium, on a la chance d'avoir un terrain d'expérimentation pour le faire d'une manière originale et singulière.
Et pourquoi c'est important en fait pour votre scène de musique actuelle de participer à ce type de collaboration?
En fait, c'est important parce que c'est ce qu'on cherche tout le temps, en fait. La manière la plus originale ou la plus singulière d'aller proposer une rencontre entre artistes et musique. En tout cas, c'est complémentaire à la manière la plus classique qu'on peut faire, dans laquelle on peut voir un concert, c'est-à-dire un rapport frontal, artiste public, on va à la salle, on repart. Là, ça nous permet donc d'avoir ces formes originales et puis aussi de coopérer avec des acteurs qui soient sur le champ culturel ou sur le champ scientifique. Ça, après, c'est aussi en nous, on aime bien échanger, construire avec d'autres.
On y reviendra un peu plus tard dans l'émission.
Et alors, Fabienne Laguinde, je reviens vers vous. Donc, on a compris que l'objectif, cette idée du Mans Capital du Son, on l'a expliqué. On a vu que différents acteurs dans différents secteurs convergent vers cette idée-là. Mais en fait, pourquoi est-ce que c'est un enjeu pour le Mans de développer cette activité autour du son?
C'est vraiment pour nous un vecteur d'attractivité, hein, de mettre en lumière tout ce qui se faisait déjà finalement. Hein. Nous, on ne fait que faire travailler les acteurs ensemble, mieux se faire connaître. Ça permet une synergie, de la mutualisation par exemple, et ça permet du coup de faire mieux connaître en les regroupant comme ça, chacun des acteurs spécifiques. Donc, c'est un vrai vecteur d'attractivité. On sait, je vais prendre un exemple très concret, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, grâce à tout ce travail, certains des parcours de l'Institut Acoustique au Mans attirent des jeunes de la France entière. Moi, c'est pas rare que je vois des jeunes qui viennent en licence ici à l'Université du Mans de très loin pour suivre ces parcours et qui commencent à vraiment s'afficher de façon différenciante.
Alors Manuel Melon, qu'est-ce qui les attire alors, ces étudiants, concrètement ?
C'est une spécificité, puisque on va avoir beaucoup d'acoustique dans la formation, ce qui est assez peu enseigné dans d'autres universités. Il y a quelques masters en France, c'est à l'échelle de la France, ça ne fait pas beaucoup. Et on a même des parcours internationaux là, qui même attirent au-delà de la frontière de la France, puisqu'on a un parcours spécialisé en électroacoustique, on a des étudiants qui viennent du monde entier.
Et alors là, peut-être Fabienne Lagarde ou Julien Martineau, vous serez peut-être amené à répondre. Est-ce que cette attractivité fonctionne aussi déjà du côté des artistes, les artistes qui travaillent sur le son? Est-ce que Le Mans les attire déjà, ou alors est-ce que c'est encore en travail? Est-ce qu'il faut encore aller les chercher?
Bah, honnêtement, depuis la Biennale, oui, c'est sûr qu'est la vitrine principale. Aussi avec le Dôme.
On reviendra sur le Dôme tout à l'heure. Ouais.
On a beaucoup plus de sollicitations d'artistes qui cherchent à expérimenter. Je pense qu'on commence à être repérés des artistes, mais aussi de pas mal d'acteurs en fait en France et dans les réseaux internationaux.
Et donc Fabienne Lagarde, il y a déjà plusieurs acteurs qui sont engagés dans cette dynamique-là, mais est-ce que Le Mans envisage de développer de nouveaux acteurs qui pourraient grossir les rangs de ce consortium ?
Oui, bien sûr, c'est l'idée hein, déjà d'attirer, alors de permettre aux acteurs présents de continuer à se développer et de réussir vraiment à bien vivre hein, de ces savoir-faire et attirer de nouveaux acteurs qui viendraient de l'extérieur, notamment. Alors, une des idées vraiment de France 2030 là, et du projet ICC, c'est vraiment d'installer de façon durable des acteurs à vocation économique aussi, donc qui font du transfert économique de toutes ces connaissances. Et il y a des opportunités pour ça. Il va y avoir le décret son, par exemple. Donc, on pourrait devenir un des acteurs majeurs, aider dans cette nouvelle façon de travailler que le décret son va imposer, notamment aux acteurs culturels, et bien prendre toute notre place, peut-être en devenant experts, en créant des bureaux d'expertise, en créant du matériel, attirer aussi vraiment des acteurs économiques.
Donc il y a des investissements qui sont pris en place. Est-ce qu'il y a quand même une priorité qui est établie entre l'innovation vers de nouveaux acteurs, de nouvelles structures pour explorer peut-être d'autres possibilités du son, ou bien plutôt on va rester dans le renforcement et le développement des structures déjà existantes et qui commencent à avoir un certain impact?
C'est les deux, hein. C'est vraiment renforcer ce qui est déjà existant, c'est sûr, mais ça a besoin aussi de se nourrir et d'attirer, quand on veut continuer à être innovant, il faut toujours rester très ouvert hein, à tous ceux qui peuvent venir de l'extérieur et qui commencent d'ailleurs à venir vraiment graviter autour de cet écosystème. Donc oui, l'idée c'est vraiment d'affirmer le son comme notre signature ici, et on travaille beaucoup sur tous les domaines dans lesquels le son, le social, la transmission, la santé par exemple aussi, on développe des axes complètement innovants sur comment le son peut aider aussi des secteurs comme la santé. Donc je vais dévoiler la totalité du contenu de notre dossier, parce qu'il est en préparation, et comme vous avez compris, c'est quand même un sujet assez concurrentiel, donc on travaille avec des axes qui vont être très précis et qu'on sera vraiment enchanté de pouvoir présenter quand tout sera bien calé.
Voilà. Alors du coup, les implications n'existent pas que dans le secteur culturel?
Non, ça dépasse évidemment le secteur culturel, c'est un des gros axes, le secteur culturel, mais ça va bien au-delà, et ça va toucher aussi beaucoup d'autres secteurs. Oui.
Alors pour rester tout de même dans ce secteur culturel, on a évoqué la Biennale du son, Le Mans sonore, lors de la dernière édition en 2024, un dôme impressionnant avait été dressé pour accueillir des concerts. Alors, est-ce que ce dôme va continuer à avoir un rôle dans le développement de l'activité de la ville autour du son? Où est-ce qu'on peut le trouver à présent, prochainement?
Alors, ce dôme, oui, c'est vraiment pour nous un lieu iconique hein, de cet écosystème. Effectivement, il a très bien fonctionné lors de la dernière biennale, et puis je laisserai peut-être Julien compléter, grâce aussi à Jean-Michel Jarre, hein, qui a tout de suite accepté d'en être le parrain, parce que, voilà, lui, très intéressé pour venir essayer ce nouveau son, en fait. Hein. C'est quelqu'un, c'est un pionnier aussi, lui, dans son art, donc il était très content de venir innover. Et ce lieu, bah, il va continuer à voir des créations culturelles, ça va devenir un lieu d'enseignement. C'est ce qui va faire aussi notre spécificité. Je parlais tout à l'heure de la formation unique en France. Ce dôme va aller s'installer à l'ITEM, où il va être un des lieux importants d'un nouveau parcours sur le son, et notamment le son immersif, avec donc des séances de formation importantes. Mais ça va rester aussi un lieu d'accueil de résidence, de création, mais je pense que Julien pourra compléter.
Alors, juste un petit point sur l'ITEM, du coup, donc cette présence du dôme à l'ITEM, ça va participer au caractère singulier de ce lieu de formation au Mans ?
Tout à fait, ça va renforcer ce lieu unique. Ça va faire aussi un lieu de création et de diffusion à l'université. Vous avez compris que le Mans Capitale du Son, c'est aussi, enfin, l'université, le campus universitaire est vraiment un lieu aussi hein, central de cet écosystème. Et donc, ça va lui donner cette transversalité, puisque ça va devenir aussi un lieu très particulier de résidence d'artistes. L'idée, nous, c'est vraiment de mêler, c'est qu'il y ait de la science dans la diffusion artistique, mais c'est qu'il y a aussi de l'art et de la culture chez les scientifiques. Donc voilà, le dôme, c'est un bel exemple aussi de mélange, de transversalité autour du son.
Et pour entrer au cœur du dôme et comprendre comment il fonctionne, on sera d'abord avec François Hérault, technicien pour la ville du Mans. Ce sera dans quelques instants, juste après une pause musicale. Tout de suite, on écoute un morceau de Jean-Michel Jarre et c'est Oxygène, partie 4. We'll be right back.
5e forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire, en direct sur les radios associatives sartoises de la Frama.
C'était donc Oxygène, partie 4 de Jean-Michel Jarre, qui avait donné un concert sous le Dôme pendant la Biennale du Son 2024. Alors pour rentrer dans les coulisses du Dôme, je laisse la main à Delphine Duchemin de Cartable FM.
Merci Charlie. François Hérault, vous êtes technicien certifié technologie LISA pour la ville du Mans. LISA.
Ouais.
Pour la ville du Mans, pardon. Et son équipement, donc le Dôme, inauguré en 2024 lors de la Biennale du Son Le Mans Sonore. Pourquoi avoir construit une structure sonore immersive?
Alors pourquoi? Je pense que c'est une volonté de la ville d'avoir un lieu assez iconique, je pense. Moi, quand Dominique Quettel, à l'époque, m'avait demandé mon avis là-dessus, je lui avais conseillé le Dôme aussi, parce qu'il y en avait un aussi également à Télocher, à la Citadelle des Anges, et du coup, je connaissais les fabricants de ce lieu.
Donc ouais.
Ça s'est fait de fil en aiguille, et celui du Mans a été acheté, du coup.
D'où est venue l'idée, justement, de cette forme en dôme géodésique? Qu'est-ce qu'elle permet de plus
qu'un carré? On en revient un peu à... au terme de la bulle sonore, je pense, faire d'un lieu avec du son circulaire à 360 degrés là, pour cette partie dôme, et vraiment englober au maximum les auditeurs. Voilà.
Techniquement, avec un cube, effectivement, ça n'aurait pas pu avoir le même rendu, quoi.
Peut-être que Manuel aurait pu répondre à cette question.
Ça pourrait avoir un rendu équivalent, mais voilà, mais c'est aussi plus simple à gérer sur une sphère, puisqu'on va pouvoir disposer les haut-parleurs de façon symétrique. Donc ça va être aussi plus simple à gérer.
Là, on sait que les écarts des haut-parleurs vont être identiques sur une sphère.
Et si on parle justement de la coquille, en fait, cette structure, de quoi est-elle constituée?
Alors là, c'est une coquille en bois, fait avec à peu près entre 800 et 900 bouts de bois. Tous mêlés entre eux avec des calculs savants que je n'ai pas. Mais... Et cette forme du coup géodésique et sphérique permet aussi une répartition au maximum des charges, du coup, pour que ça puisse tenir debout en assemblant ces bouts de bois.
Vous disiez que qu'il y avait déjà une telle structure, enfin une structure similaire qui existait à la Citadelle des Anges
à Télocher, ouais.
Et que vous connaissiez donc les ouais. constructeurs. Qui sont-ils?
Alors c'est l'entreprise Freedom qui fabrique ces dômes. Ils sont spécialisés là-dedans. Et c'est une forêt qui leur appartient. Ils font de la coupe d'arbres raisonnés puisqu'ils replantent au fur et à mesure.
Ah oui, ils ont carrément leur matière première.
C'est leur parc et leur bois. Ils font tout de A à Z. Voilà.
Et ils en construisent beaucoup des dômes, vous savez, ou pas?
Je n'ai pas leur chiffre d'affaires et leur quantité de dômes, mais je pense que ça doit marcher pour eux. C'est assez tendance.
Comment, pour s'intéresser au matériel donc, qui est installé dans ce dôme, comment on procède pour couvrir justement l'ensemble de l'espace avec du son?
Bah là, du coup, c'est pas un système de grappe, parce que du coup, là, effectivement, le LISA normalement utilisé est en forme frontale avec du son étendu pour donner une couverture plus étendue à l'auditeur qui va être en simple formule stéréo, comme on peut le voir sur des concerts festivals avec deux grappes de chaque côté.
Ok, donc là, en gros, on serait le public devant une scène et pas au milieu, pas autour de...
Là, la technologie ELISA permet aussi de faire du 360 degrés, un peu en mode surround, en fait, et puis du coup...
Ouais, ce qu'on pourrait appeler du surround ou la stéréo plus, ouais. plus.
C'est ça.
Pour absolument baigner...
C'est pour créer une bulle, justement, avec des points à hauteur. Là, il y avait trois cerces... Une cerce plus à l'auteur d'oreille, une cerce plus haute et une cerce vraiment avec un point zénith central. Le son est diffusé vraiment de partout.
Est-ce que l'aménagement des diffusions sonores, donc les enceintes et puis ce qui va sortir en fait, ce par quoi on va entendre le son, est-ce qu'il est adaptable en fonction des projets ou est-ce qu'en fait dans le dôme ce sera installé de manière presque définitive?
Alors, il y a plusieurs contraintes qui rentrent en problématique. C'est aussi le poids des enceintes que vous allez utiliser. Donc, en fait, on peut effectivement créer un système un peu plus conventionnel pour dire on mettra tant d'enceintes de toutes marques possibles confondues. Mais là, pour le Mans Sonore, c'est vraiment Elle Acoustique, la marque référente Elisa, qui avait été demandée, qui avait fait l'étude de disposition des enceintes par rapport à l'étude de charge acceptée captée par le dôme.
On va revenir justement rapidement, parce qu'on n'a pas précisé là, cette technologie ELISA, donc a été créée, mise en place, enfin lancée par une entreprise française. En deux mots, vous pourriez nous dire, c'est une technique, c'est comme si on citait un logiciel en gros.
En fait, c'est une branche en gros de la marque L'Acoustique, qui du coup s'appelle ELISA. C'est une technologie vraiment de spatialisation sonore et en gros d'hyper-réalisme du concert. Voilà, en gros, chaque marque développe son son immersif maintenant.
Justement, j'avais demandé, mais il y a d'autres marques qui développent ce type de technologie?
Ouais, DNB, on fait le Soundscape, Coda Audio, le Space Sub.
Voilà, c'est technique. C'est des noms de marques, ça, ou c'est des catégories de technologies?
Non, en fait, chaque marque crée son logiciel, sa matrice, en gros, d'accord, immersive, avec ses algorithmes propres.
Et il y a une raison pour laquelle le Le Métropole a privilégié L'Acoustique?
Après, L'Acoustique, c'était aussi... Jean-Michel Jarre travaillait à l'époque avec L'Acoustique. Son ingénieur, en fait, c'était comme ça. Il y avait aussi les acteurs locaux, notamment la société locale de location qui était pas très loin pour ça. Donc.
Une question toute bête, peut-être. Est-ce que L'Acoustique change si le dôme est vide ou si le public est présent? Parce que du coup, quand vous faites vos réglages, comment vous procédez?
Alors évidemment, le dôme vide, c'est une bulle, hein, c'est... une sphère, plus vous vous baladez, plus vous avez des artefacts en fonction de là où vous vous placez, et qui sont même très amplifiés au point central du dôme. Donc c'est pour ça qu'il avait été utilisé des panneaux absorbants et vraiment pour absorber tous ces artefacts, parce que franchement, sinon c'est assez compliqué de diffuser, parce que le son rebondit de partout.
Où se placent les techniciens, techniciennes son? Est-ce qu'ils font essentiellement leurs réglages par contrôle d'écran? C'est ce que j'ai pu voir en ayant assisté à des concerts justement en formule immersive. Ou est-ce qu'ils se servent encore surtout de leurs oreilles?
Alors, l'écran va nous aider à placer l'objet, parce qu'en fait, chaque instrument devient un objet dans le logiciel qu'on va placer virtuellement sur un écran et... en gros, plus près de l'enceinte de là où on veut que ça joue. Il faut quand même faire une créa... il y a quand même une phase de création où le technicien immersif est censé quand même écouter ce qui se passe. Donc, pour toute la partie créa, c'est bien d'être au centre. Et après, on peut effectivement s'isoler un petit peu plus loin, hors zone, pour le faire.
Son exploitation, entre guillemets, donc à cette technologie, est-ce qu'elle peut mener, vous pensez, ou vous le savez déjà, à de nouveaux métiers concernant, par exemple, des aspects qui n'ont pas encore été développés?
Et bah, déjà, le métier de régisseur immersif est déjà un nouveau métier, déjà, parce que on peut pas mixer le groupe et également s'occuper d'immersif. C'est deux technologies et deux compétences qui sont assez différentes et distinctes. Donc, du coup, il y a les métiers maintenant de l'immersif qui vont être opérateur immersif, je pense qu'il va voir le jour.
Le dôme va être installé à l'ITEM. Est-ce que, donc, on imagine que c'est, puis on le sait maintenant, que ça va servir pour des étudiants, pour des exercices, des expérimentations. Vous, par exemple, vous auriez aimé y faire quoi?
Moi, si je suis convié, je veux bien aller y faire de la formation, évidemment. Et puis, de la démo pour les marques, il n'y avait aucun problème. Et puis, du concert, être opérateur immersif pour du concert, si on a besoin de moi, il n'y a pas de souci.
Alors, une petite question simplement sur le fait. Donc, vous avez parlé du fait que ce dôme, il est démontable en quelque sorte. Et là, donc, il a été déplacé à l'ITEM. Cependant, est-ce qu'il n'y a pas une limite justement à ce côté démontable? Parce qu'en fait, depuis 2 ans, on ne l'a pas vu beaucoup bouger, en fait, ce dôme.
C'est ça, parce que, en fait, ça reste aussi que du bois. Et une structure assez immense qui nécessite un temps de montage qui est assez faramineux, avec des moyens coûteux.
Fragile peut-être aussi, non?
Et aussi fragile, hein, le bois entreposé. Qui a été conçu pour être monté avec des contraintes et qui du coup est laissé peut aussi bouger, donc voilà, ça a été pensé à la base pour ces dômes-là par le constructeur pour être pensé en fixe.
D'accord. Cette technologie, donc on l'a vu, n'est pas uniquement applicable à la recherche scientifique. On parle en fait d'applications concrètes dans les salles de spectacle, comme on a pu l'expérimenter Superforma et son public.
Cinquième forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire, en direct sur les radios associatives sartoises de la Frama.
Julien Martineau, on l'a dit, vous êtes directeur de Superforma, la structure labellisée SMAC, scène de musique actuelle donc au Mans et alentour. J'imagine que vous aviez eu des retours des concerts qui ont eu lieu dans le Dôme en janvier 2024. Que vous a dit le public qui a pu assister à ces expériences sonores ?
Incroyable, Julien, incroyable. En fait, c'est une expérience que les gens n'ont pas l'habitude de vivre sur du spectacle vivant, en règle générale. C'est une technologie, tout à l'heure, ça a été dit par Manuel Melon, qui est vraiment implanté dans le jeu vidéo, donc au casque, principalement, qui est aussi implanté dans le cinéma. Mais en fait, je crois que le cerveau est pas habitué à voir des gens jouer et à avoir du son tout autour. Donc, il y a cette dimension-là qui est choquante dans le bon sens, quoi. En fait, voilà.
Quelles sont donc les applications futures de cette spatialisation à l'échelle de Superforma ? On en a un petit peu évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres projets de concerts ou de spectacles submersifs ?
Alors, il semble que le dôme sera réinstallé à l'ITEM. Nous, on a beaucoup de demandes depuis cette première expérience. Donc, j'espère qu'on va pouvoir y proposer à la fois des créations en réponse à des demandes d'artistes et à la fois pouvoir avancer avec des acteurs, notamment le LOM, le laboratoire d'acoustique, sur des résidences croisées, sciences, arts et sciences. Donc, soit à partir d'une thématique artistique, soit à partir d'une thématique scientifique, et croiser des acteurs, des artistes, pour aboutir à des dispositifs innovants, en fait.
Oui, j'imagine que le projet est un peu en construction, mais peut-être pas, mais vous pourriez faire, par exemple, appel à projet et puis sélectionner des artistes sur des temps proposés.
Oui, je crois que c'est nécessaire à la fois de repérer des projets et d'essayer d'en susciter, mais aussi de laisser une partie de l'espace, du temps, de ce lieu-là ouvert à des initiatives, notamment du territoire. Je crois qu'il y en a qui travaillent, comme en fait, notamment, il y a des volontés artistiques, et il se trouve que même du côté des gens qui travaillent le son, ingénieurs du son, comme François Hérault, juste à côté de moi, en fait, il y a des gens locaux qui savent faire et qui ont la chance qui vont sans doute avoir la chance de pouvoir bénéficier de ce lieu-là pour y aller.
D'avoir un outil à disposition, près en tout cas. On a parlé du dôme, il y a d'autres aspects explorés concernant la spatialisation sonore dans d'autres structures, d'autres salles de concert. On a parlé donc un peu de la chambre anéchoïque ou semi-anéchoïque, mais il y a d'autres formes encore qui ont été exploitées, entre guillemets, par Superforma.
Pour le son immersif ?
Ouais, le fauteuil sonore, par exemple.
Ouais, alors on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Soma, qui a conçu un fauteuil sonore. Donc c'est un fauteuil dans lequel on est très agréablement assis et qui a la particularité de ne pas avoir de haut-parleur, mais le son est conduit par la structure du fauteuil. Voilà. Donc ça, c'est un peu comme si vous connaissez les écouteurs à conduction osseuse. En fait, c'est le même système, mais qui permet en fait, qui a plein de vertus. En tout cas, nous, on a proposé à un artiste de créer une œuvre spécialement pour ces fauteuils sonores qu'on a pu mettre en place, la première fois, puis on a réitéré en 2024.
Oui, parce que cette technologie, elle est intéressante donc pour une scène de musique actuelle, une structure qui diffuse des événements culturels, mais ça reste une technologie, ça reste de la recherche scientifique, et on peut vous considérer comme des chercheurs, mais en tout cas pas comme des scientifiques, si on va par là. Donc l'idée, c'est que faut que vous travailliez avec d'autres acteurs, en fait. Alors, vous avez travaillé avec le LOM, je crois, notamment. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs comme ça avec lesquels vous avez travaillé ?
Nous, on ne cherche pas, hein. Je vous le garantis, on ne cherche pas. Nous, on est juste des passeurs, en fait.
D'accord.
On est en lien avec des artistes. Les gens qui cherchent sont bel et bien les gens de l'université. Nous, on n'a pas cette prétention-là, quoi. On est super content de pouvoir travailler avec des chercheurs. Mais voilà. Après, on est confronté, on est utilisateur aussi. Donc, on est confronté à des enjeux, notamment pour donner un exemple, un enjeu lié à la santé. Quand on propose un concert en son immersif sous le dôme, qu'on fait les mesures des niveaux sonores, on se rend compte qu'on est à moins 10 dB par rapport à un système son classique.
Ah oui.
Donc moins 10 dB, ça va sans doute vous parler à vous, mais par contre, pour les gens, il faut se rendre compte que ça peut paraître peu, mais c'est entre 2 et 3 fois moins fort pour ressenti identique. Et à l'heure où on se sent obligé de distribuer des bouchons d'oreilles dans les concerts, enfin, il y a un espèce de non-sens qui s'est installé, même si les bouchons d'oreilles, c'est hyper important. En fait, cette technologie-là, elle nous permet de mieux préserver les oreilles des gens qui viennent écouter des concerts, donc potentiellement qui reviendront voir des concerts, etc. etc.
Et peut-être dans l'espace ville, j'allais dire, ou en tout cas dans la société, etc., dans l'aménagement du territoire, tout simplement, peut-être que cette forme est justement un atout, puisqu'on dérangerait peut-être moins le public, enfin les habitants autour, les riverains, quoi.
C'est exactement ça. Et aussi, du coup, c'est moins fort, donc en rapport au décresson, ça donne des éléments de réponse, ouais. Après, mais j'insiste sur ce volet-là parce que la question du son immersif n'a pas toujours un intérêt artistique. Un solo de blues, un solo de gratte, quel intérêt on va avoir à faire tourner le son
ça ne se fait
pas tout le temps. Par contre, la technologie, le fait qu'il y ait des boîtes partout dans la pièce, à plusieurs endroits dans la pièce avec des rappels, fait que le volume sonore peut être mieux dispersé et donc mieux géré et donc moins fort.
On recrée des ambiances justement de salles ou de toute la partie réverbérante est diffusée par ces enceintes qui sont aussi autour et qui du coup permettent réellement d'atténuer le son.
Alors Fabienne Lagarde et Julien Martineau, et peut-être aussi vous autres si vous êtes impliqués d'ailleurs, un mot pour finir, est-ce qu'il y a déjà des projets pour la Biennale du son 2026?
Ah oui.
C'est vrai que ça commence à être proche maintenant.
Ouais, ça approche, voilà. Et on a reçu plus de 170, je crois, on a franchi la barre des 170, la proposition, c'est vous dire, scientifique, artistique, voilà, de
C'est plus qu'en 2024.
Ah oui, c'est une augmentation significative. Donc un gros travail justement de sélection, de choix de ces projets, ce qui est difficile d'ailleurs pour nous tous là qui travaillons ensemble à préparer cette Biennale du son. Mais oui, voilà, de très beaux projets qu'on va voir arriver, émerger, qu'on va pouvoir diffuser. Et puis l'idée quand même. Et Julien me disait, ça va être d'utiliser tous ces outils, notamment par exemple le DOM, pour que cette capitale du son elle ne soit pas visible qu'au moment de la Biennale, mais qu'on ait vraiment maintenant aussi des résidences, des acteurs, des spectacles qui soient tout au long de l'année finalement et qui puissent permettre d'illustrer la Biennale restant évidemment le gros moment. Mais on va vraiment essayer de mettre en vitrine tout cet écosystème en permanence.
Julien Martineau, vous vouliez ajouter quelque chose ou...
Fabienne a bien résumé la situation. Il y a un appel à un projet qui a été lancé, 170 réponses. Donc à ça, il faut ajouter les projets qu'on a envie d'impulser. Nous, de notre côté, on continue de travailler avec l'équipe de notamment Alma Acoustique et Métacoustique sur les expérimentations dans la pièce semi-anéchoïque. Le dôme qui se réinstalle et sans doute pas mal de surprises puisqu'on a jusqu'à mai là pour finaliser la programmation.
Va peut-être falloir étendre le temps du festival pour pouvoir accueillir plus de projets.
Éventuellement. Manuel Melon, le Lôme est investi lui aussi dans les biennales cette année, en 2026. Une exposition est envisagée notamment.
Oui, on a proposé une exposition, donc reste à savoir s'il va être. Il y a un comité qui va sélectionner ou pas les propositions, mais voilà. Donc on a une exposition qui va être prévue sur une illustration de phénomènes sonores à l'aide de pochettes de disques qu'on va détourner.
Ça marche. Alors pour ceux qui nous écoutent en direct, Manuel Melon, on vous retrouve tout à l'heure pour une autre table ronde sur la spatialisation du son, elle aussi. Fantasmes ou nouveaux usages. Alors de quoi sera-t-il question?
Eh bien, on va essayer de voir un peu de choses qu'on avait entendues aujourd'hui, puis on va essayer de voir les applications de la spatialisation dans les différents domaines, que ce soit le concert ou ou d'autres domaines comme le jeu vidéo, la muséographie, le cinéma.
On va arriver à la fin de cette émission.
Cinquième forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire, en direct sur les radios associatives sartoises de la Frama.
C'est la fin de cette émission autour de la spatialisation du son, une innovation de la recherche scientifique aux politiques publiques vers une nouvelle diffusion technologique de concert. Je remercie mon binôme Delphine Duchemin, Frédéric Amard et Evan Goetz de, alors, Frédéric Amard de Radio Ornithorynque et Evan Goetz à la réalisation technique. Evan Goetz, donc technicien de Radio Alpa. Merci à tous nos invités Fabienne Lagarde, Julien Martineau, François Hérault, Emmanuel Melon.
Merci Fred Chauveau qui est lui en studio pour diffuser cette émission en direct et puis tous les autres techniciens des diverses radios. Cette émission vous a été présentée donc en direct depuis le Palais des Congrès de la Culture du Mans pour le forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire.
Vous pouvez la retrouver en diffusion sur les différentes radios de la Frama, donc Fréquence Sillé 97.9, Radio Prévert 93.9 dans le Sud-Sarthe et 88.6 à La Flèche, Radio Alpa 107.3, Ornithorin 90.2, Radio Alpe-Mancelle 106.3, Contact FM 99.3 et Cartable FM 93.3. Les radios de la Frama remercient la DRAC des Pays de la Loire et le Pôle coopératif pour la filière musicale pour leur collaboration à la préparation de cette émission. Et enfin, merci à vous bien évidemment d'avoir écouté cette émission et à bientôt sur nos antennes.
Cinquième forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire, en direct sur les radios associatives sartoises de la Frama. It's a song for the broken-hearted.